Bonjour à tous. Je me réjouis d'être parmi vous et je trouve que l'introduction de Gilles colle très bien avec le message. Il m'a demandé début de semaine ce que je pense prêcher, je ne savais pas encore, mais le Seigneur a bien fait les choses. Ce matin, on aimerait voir ensemble Jean chapitre 13. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Jésus-Christ est l'humble serviteur ». Quelques remarques préalables avant ce texte. Donc, Jésus éclaire dans ce chapitre davantage ce que sera le point culminant de son œuvre. Et donc, Jésus précise à quel moment ça sera, et je trouve déjà là, on a une indication, ça sera avant la Pâque. Et je propose qu'on lise les premiers trois versets. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartiennent dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Voilà. La petite précision, c'était avant la Pâque. La Pâque, bien sûr, c'est historique pour les Juifs. C'était en lien avec la sortie de l'Égypte. C'était juste avant la sortie de l'Égypte, la première Pâque que les Juifs ont fêtée. Et c'était l'agneau qu'ils devaient offrir pour mettre du sang autour de la porte, pour que l'ange exterminateur n'élimine pas les premiers-nés des Israélites. Les Égyptiens n'étaient pas certainement au courant de ça, et leur premier-né était mort, et très rapidement après, les Égyptiens les ont chassés afin qu'ils partent. Parce qu'il réalisait bien que là, c'est le doigt de Dieu qui intervient. Donc il y a cet agneau qui a dû mourir ce premier soir en Égypte encore, avant de les libérer. Ça, c'était le cadre. Et donc ici aussi, c'est le soir avant la libération. Et Jésus le sait. Jésus sait que son heure était venu, dit le texte. Donc il a choisi le moment de cette fête pour mourir tel un agneau. Et il savait aussi que c'était la véritable Pâque. C'était pas d'offrir un agneau et de manger certaines choses comme les Juifs avaient l'habitude. C'était le véritable sacrifice expiatoire. Donc, expier, ça veut dire enlever ou couvrir le mal des gens. Et avec d'autres mots, pour sauver son peuple. Mais Jésus savait bien plus que ça. Il savait que Judas a déjà ouvert son cœur au diable. Donc, il a permis à l'ennemi d'entrer dans son cœur, de devenir son complice, parce qu'il avait à ce moment-là déjà planifié avec les souverains sacrificateurs comment il va leur dire qui est Jésus et qui est-ce qu'ils doivent amener pour le condamner. Mais Jésus savait aussi que le Père a tout remis entre ses mains. Donc, qu'est-ce que c'est tout? qu'est-ce qu'il a remis entre les mains de Jésus? En fait, c'est l'avenir du monde. L'avenir et même l'éternité. Il est conscient, Jésus, de sa puissance. Il est conscient de son autorité, de sa préexistence. Il est venu de Dieu. Il est conscient de son omniscience, qu'il sait tout, qu'il est Dieu. Et pourtant, il est conscient que son sacrifice sera nécessaire pour l'avenir de l'humanité, pour la sauver. Tout dépendra de ces moments qui vont venir, juste après. Il était conscient que c'était l'heure de quitter le monde et d'aller auprès du Père. Et avec la certitude qu'il retrouvera la gloire divine. Et je dis bien « retrouvera » parce qu'il l'avait déjà connue auparavant, avant de venir sur terre. Et également qu'il quittera les siens. Et plusieurs fois, il leur a annoncé qu'il va les quitter. Et eux, ils ne comprenaient pas. Il va quitter les disciples aimés. Il va les laisser dans le monde. Mais avant ça, et c'est pour ça que j'ai englobé ça rapidement dans une remarque préalable, dans l'introduction, en fait, il veut leur laisser quelque chose qu'ils n'oublieront plus jamais. Et je suis sûr qu'ils n'ont jamais oublié. Et c'est le premier point. Un symbole qui restera gravé à jamais dans leur tête. Un geste d'amour. En fait, ce geste d'amour était tellement fort qu'il était en contraste total avec le Messie que les Juifs, ils attendaient. Les Juifs, ils attendaient le libérateur des Romains. Ils attendaient. Mais ils n'attendaient pas celui vraiment qui allait venir. Et je propose, je fais une expérience, une fois, de lire l'histoire un peu autrement. Souvent, on lit les versets comme ça, versets 4 à 10. Dans le travail des conquérants, on a raconté souvent comment on pourrait s'imaginer que cette histoire a eu lieu. Donc, je l'ai fait aujourd'hui de cette façon, pardonnez-moi les petits extras qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais que je crois qui montrent bien cette histoire. Quelle Pâque ! Tu as vu les pharisiens et leur tête lorsque Jésus est entré dans Jérusalem ? Tout le monde l'acclamait. On mettait les branches par terre. Waouh, c'était la fête. Et les Romains, ils n'ont pas bougé. Ah, ça, c'est quand même incroyable. Avec une foule comme ça, en acclamation, et ils parlent de roi, et les Romains qui ne bougent pas. Ah, tu crois que c'est cette fête-là qu'il va choisir pour se proclamer roi? En tout cas, ça serait une belle occasion. Et en plus, on a déjà un repas festif, n'est-ce pas? Attention, Jésus va se lever. Est-ce que c'est maintenant qu'il va dire son discours d'introduction royale? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bassin, une bassine, et il met de l'eau. Oh là, j'espère qu'il ne va pas me le donner et me demander à laver les pieds à tout le monde, hein? Mais, non, ça, c'est pas vrai. Il enlève sa tunique, il prend une serviette. Mais, c'est le boulot d'un esclave, c'est pas lui de faire ça. Et il va s'apprêter à laver les pieds de Pierre. Ouh là là, ça va barder. Toi, me laver les pieds? Il a raison, Pierre, n'est-ce pas? Chut, il dit quelque chose. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, 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 jamais tu me laveras les pieds. Ça, c'est du Pierre tout craché, hein? Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi, lui dit Jésus. Alors, pas seulement les pieds, lave-moi entièrement. Et on pourrait continuer. Je ne continue pas. Vous pouvez vous imaginer et lire le texte un peu de cette façon. Laver les pieds pour quelqu'un d'un rang, du même rang déjà, c'était pas ce qui se faisait, n'est-ce pas? Là, c'était en fait, comme j'ai dit, la tâche d'un esclave. C'est pour ça que les disciples ne voulaient pas le faire eux-mêmes. Ils avaient d'ailleurs, je crois, même pas prévu de le faire, étonnamment. Ils ont tout préparé, mais pas ça. Jésus était conscient de sa puissance. Et conscient de sa puissance, on pourrait se dire, mais là, il va écraser Judas. Hein? Non, il va lui laver les pieds à Judas. Et en plus, il savait ce qu'il allait faire. En Philippiens, ça écrit, Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il y a cette objection de Pierre. Est-ce qu'elle est justifiée? Non, non, tu ne me laveras pas les pieds. En quelque sorte, elle est justifiée parce que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Il est Dieu, le Seigneur, le dirigeant du monde. Il mérite que tout le monde le serve. Il mérite la clameur, la louange. Mais d'un autre côté, il a tort, Pierre, en disant « Non, tu ne me laveras pas les pieds, car Jésus, il renverse en fait l'ordre pour présenter non pas un Messie, roi supérieur qui chasse les Romains, mais un Messie serviteur, comme il a été annoncé déjà en Ésaïe. On va lire ce texte. Le Seigneur, Ésaïe 50, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. On voit l'humilité de Jésus. Et pour Pierre, c'était incompatible avec un Seigneur glorieux. Et pourtant, Dieu l'avait annoncé. Dieu l'avait préparé. Et plus tard, Pierre comprendra que Messie, le Messie serviteur, est en réalité bien plus glorieux qu'un simple roi, uniquement qui chasse quelques Romains. Le Messie serviteur, c'est le plus glorieux qu'on a. Deuxième point que je relève, l'opposition. Donc ce « jamais tu ne me laveras les pieds » de Pierre, il montre un peu l'attitude. face à Jésus, un serviteur. Ce n'est pas du tout dans la conception de Pierre de voir un Jésus serviteur. Comme il ne se voyait pas non plus soi-même en tant que serviteur. Et comme nous avons souvent du mal à nous voir nous-mêmes en tant que serviteurs, serviteurs des autres. Pierre aurait pu se braquer au début, il se braquait un peu contre ça. Judas, lui, il est resté braqué. Et je crois que c'est ça, un peu la question qui se pose à nous, toujours à nouveau. Parce que l'ennemi, il essaye de nous faire braquer contre quelqu'un et contre quelque chose qui nous arrive. Ça peut être un gros coup de santé, ça peut être quelque chose que quelqu'un dit, et voilà, on se braque. Et l'ennemi essaye même de nous faire braquer contre Dieu, de faire croire que Dieu empêche notre bonheur, qu'il est un Seigneur dur, qu'il prive de joie, qu'il n'est pas bon. Et en fait, il veut intervertir les attributs de Dieu avec les siens, avec celle de Satan qui, lui, n'est pas bon et qui est mauvais et qui veut faire du mal. Et donc, avec ce « Ah non » de Pierre, c'est intéressant comment Jésus répond. « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » C'est avec une certaine véhémence, je dirais, dans ses paroles. Pas de part avec moi. Si je ne te sers pas, si je ne peux pas te laver les pieds. Bien sûr, ce n'est pas forcément de laver les pieds, il s'agit de laver les pieds, mais Jésus veut aller plus loin que ça, que laver les pieds. Parce que laver les pieds, c'est une image. Pierre peut être en lien avec Jésus-Christ uniquement s'il accepte que Jésus-Christ le sert. Et mes amis, c'est aussi notre cas. Nous pouvons être en lien avec Jésus-Christ uniquement si nous acceptons que Jésus-Christ soit notre serviteur pour nous pardonner. Bien sûr, après, il est aussi roi, n'est-ce pas? Mais d'abord, il est serviteur. Refuser Jésus-Christ serviteur, c'est le perdre. Donc, c'est capital pour chaque disciple. Personne ne peut se passer de Jésus-Christ serviteur et être sauvé. Jésus-Christ prophète ne suffit pas. Pierre se soumet et souhaite entièrement être lavé. Et Jésus lui dit, vous êtes pur. Il dit ça à Pierre et à d'autres qui ont la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre, qui sont pardonnés, ils sont baignés, réconciliés avec Dieu et ils ont la vie éternelle. Mais il ajoute, mais tous ne sont pas purs. Donc, il ne confond pas, vous êtes purs et tout le monde est pur. Non. Jésus connaît ceux qui sont purs. Et si parmi les 12, il y en avait un qui n'était pas pur, parce qu'en réalité, il ne voulait pas de Jésus, c'est aussi le cas, malheureusement, dans l'Église. Mais Jésus-Christ, il connaît chaque cœur. Il connaît le traître. Et il lui lave les pieds. lui le maître. C'est extrêmement fort. En Ésaïe 40, nous lisons « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Me semble le mot ici pour Éternel, c'est bien Yahvé. Préparez le chemin de Yahvé, notre Dieu. Et c'était préparer le chemin pour Jésus. Donc on voit que Jésus comprend bien qu'il est celui qui est annoncé. Et pourtant, Judas reste dans l'opposition. En 1 Jean, chapitre 3, versets 5 à 8, je cite quelques passages de ces versets. « Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Si quelqu'un a péché, il ne l'a pas vu. Donc, si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Jésus est venu pour ôter le péché, pour... Et ça, pas par le geste de laver les pieds, mais c'était juste le symbole. Et c'est important. Jésus-Christ peut purifier si je reconnais le besoin de son sacrifice. Et cette purification de Jésus, son œuvre, elle a des conséquences. C'est mon troisième point. Les conséquences du lavage de Dieu. Et la première chose que Jésus leur demande, avez-vous compris? Avez-vous compris ce que j'ai fait? Donc Jésus-Christ prouve que son amour envers sa communauté, elle doit être caractérisée par ce même amour. De comprendre qu'il est, et il va plus loin, il parle de l'humilité au verset 14. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas tant le geste qui est à imiter, dans certaines églises ils le font, mais je crois le service doit être imité. Le service pour l'autre. Qu'est-ce qui nous empêche d'être des humbles serviteurs du prochain? Des fois on n'aime pas être le serviteur de l'autre. On a tellement reçu de Jésus-Christ et on a du mal à pardonner, à relever l'autre, à soigner l'autre, à aider l'autre, à indiquer la repentance et la grâce à l'autre et à le vivre. Mais, j'ai lu cette phrase dans un commentaire, même le plus grand service que nous puissions rendre à un prochain ne sera jamais comparable au service de Jésus-Christ. Ne l'oublions jamais. On peut servir les autres et on veut servir les autres. Et dans l'Église, on s'encourage à servir les croyants, les non-croyants, etc. L'Église, bien sûr, mais ce n'est pas comparable avec l'œuvre de Christ, qui lui a bien plus fait que nous tous qu'on pourra jamais faire. Et l'humilité que Jésus présente, elle n'est pas mise dans notre berceau. L'humilité, ça s'apprend. Et c'est Jésus-Christ qui doit la créer en nous quand on imite Jésus-Christ. Une deuxième phrase qui m'a marqué dans un des commentaires, le chrétien arrête d'être chrétien et l'Église cesse d'être Église si Jésus-Christ n'est plus Seigneur serviteur et le disciple son humble imitateur. On ne sera plus chrétien et l'Église ne sera plus Église si Jésus n'est plus serviteur et nous les imitateurs de Jésus. Si je refuse cette phrase, je refuse quelque part le modèle de Jésus-Christ. Et je refuse aussi une autre chose, le bonheur. Au verset 17, « Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Le bonheur, le disciple serviteur peut vivre dans le bonheur. Judas n'était pas, ne vivait pas ce bonheur. Au verset 18, c'est écrit, « Je ne parle pas de vous tous, je sais bien, très bien, quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. » Et au verset 40, au chapitre 41 d'Ésaïe, au verset 10, c'est déjà prédit, « Celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Ici, il parle de Judas. C'est violent, c'est brutal. Lever le talon, c'est le coup de sabot du cheval. C'est pas très conseillé. Pourtant, c'est ce que Jésus a reçu en plein ventre par Judas. Et en fait, il n'est pas seulement pas heureux, mais il y a des conséquences. Et Jésus est troublé par ces conséquences. Les conséquences sont terribles pour Judas, pour le traître. Il refuse l'amour de Jésus. Il a pris le morceau que Jésus lui a offert, symbole de tout ce qu'il a pris de Jésus. Tous les avantages, il les a pris. Il a mangé avec lui, il a pris l'argent, il a bénéficié des services. Et pourtant, il ne le choisit pas et il ne l'aime pas. Moi, je définis souvent les chrétiens, non pas simplement qu'ils sont des chrétiens, parce que dans la porte à porte, beaucoup disent « je suis chrétien », mais avec des gens, est-ce que vous aimez Jésus? Ça change beaucoup. Satan avait pris la direction du cœur. C'est certainement troublant. Il a choisi Satan et refusé Jésus. Et notre texte dit, il part, il sort après avoir pris le morceau. Dès que Jésus eut pris le morceau, verset 30, il se hâta de sortir, il faisait nuit. Il est parti dans l'obscurité, dans le noir. Mais la terrible conséquence sera aussi pour Jésus, parce que Jésus lui donne en quelque sorte l'autorisation de le vendre. Il lui donne... Il est conscient que la trahison est imminente, violente, que la souffrance sera inimaginable et qu'il ne sera plus longtemps avec les disciples. Mais il y a une dernière conséquence du lavage des pieds. C'est au verset 34. Je vous propose de le lire. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Aimez les uns et les autres comme Jésus en serviteur. C'est ça qui est devenu la préoccupation prioritaire des disciples après ce lavage des pieds. En tout cas, c'est ce que Jésus a souhaité. L'amour entre des disciples. Pas être chef, être serviteur. Conclusion. Est-ce que tu choisis Jésus-Christ avec toutes les conséquences? Ça peut être servir avec le bonheur, bousculade chez tous ceux qui ont besoin d'un service. Je ne sais pas si Rebecca a besoin de service pour son atelier bientôt. Et bien à d'autres endroits aussi, auprès de Gilles, etc. Accepter la dernière place. Est-ce que c'est envisageable, même si cela inclut la souffrance, de choisir Jésus, serviteur? Et une dernière question. Comment pouvons-nous nous aider mutuellement à progresser afin d'être des humbles serviteurs de notre prochain? Je crois que c'est ça que le passage veut aussi nous apprendre à y réfléchir. Et je vous laisse cette question pour la prochaine semaine. Et je vais encore prier. Père Céleste, quel incroyable exemple que tu nous as donné en Jésus-Christ. Toi qui avais tous les pouvoirs, tu t'es laissé maltraiter, malmener, même par les plus proches, sans te révolter, sans écraser, mais tu leur as offert ton amour et tu nous offres l'amour. Cet amour est encore le même envers chacun de nous, offert pour que nous puissions être en communion avec toi, avec le Père, être sauvés et devenir des serviteurs à notre tour, des imitateurs de ton amour et de ton service. Seigneur, permet que nous puissions avoir cela dans notre tête à chaque instant dans la semaine qui vient, où tu nous demandes un service, peut-être envers quelqu'un qui n'en est pas digne, et tu nous le demandes quand même. Seigneur, permet que nos cœurs soient réceptifs et plein d'amour pour les uns et les autres autour de nous. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié, parce que c'est ton œuvre qui le fait en nous, c'est ta force qui le fait encore aujourd'hui dans l'Église. Amen.